En Centrafrique, ça y est, cette fois-ci c'est officiel. L'ex-putschiste François Bozizé est officiellement à la tête des groupes armés réunifiés en Centrafrique, donc le CPC. C'est ce qu'a annoncé le dimanche 21 mars Serge Bozanga, porte-parole du groupe armé de la coalition des Patriotes pour le changement. Dans une déclaration, il a indiqué que François Bozizé a décidé d'accéder à la demande des groupes armés membres de la CPC, lui demandant de prendre la tête de la coalition en qualité de coordinateur général. Composée de 6 organisations armées, elle a été fondée au cours du mois de décembre 2020 pour renverser donc le président Faustin Archange Touadéra, élu officiellement par la population pour un second mandat. Où sont les condamnations de la communauté internationale, l'éternel appel au calme de l'ONU, les condamnations incessantes des pays de l'Union européenne et des États-Unis? Un silence qui est assez révélateur. En effet, tout le monde sait maintenant que l'Occident et surtout la France et les États-Unis ne portent pas le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, réélu récemment, dans leur cœur. En effet, le partenariat entre Bangui et Moscou dérange particulièrement Washington et la perte du prix carré français met l'Élysée dans tous ses états. L'échec de l'offensive de ces groupes armés réunis face au FACA reste une pilule difficile à avaler pour l'axe occidental. Cette offensive a commencé vers mi-décembre, lorsque 6 groupes armés se sont alliés au sein de la CPC, puis ont lancé une offensive qui s'est heurtée à la résistance des forces nationales. Depuis janvier, l'armée nationale a repris plusieurs villes à ces rebelles terroristes. Et des instances occidentales, comme Amnesty International, ont fait des rapports blâmant l'armée nationale pour des prétendus crimes contre l'humanité. Ce rapport a fait réagir d'ailleurs les autorités centrafricaines. Selon Sylvie Baipo, la ministre des Affaires étrangères, ce que la République centrafricaine attend, c'est que dans ce rapport, il soit clairement indiqué que le maintien de l'ordre constitutionnel passe par une condamnation ferme des acteurs ennemis de la paix qui viennent déstabiliser les institutions de la République. Où on nous parle d'arrestation, de couvre-feu. Le couvre-feu est là pour sécuriser la population. Les moyens étant limités au niveau de nos forces armées, nous cherchons d'autres moyens également pour pouvoir assurer la protection de la population. Les initiatives mises en place par les autorités centrafricaines ne sont jamais prises en compte dans les médias mainstream. L'Occident s'attend implicitement à ce que le gouvernement centrafricain dialogue avec ses groupes armés, mais pour Bangui, il est impossible d'ouvrir des discussions avec des terroristes qui tentent de planifier des coups d'État. Ces éléments des groupes armés doivent être arrêtés et jugés par la justice donc centrafricaine, et ce n'est pas donc aux Occidentaux d'imposer les diktats en fabriquant de faux rapports et en se basant surtout sur les articles mensongers des médias mainstream. Les FACA ont fait donc leur preuve à l'aide de certains partenaires internationaux et des alliances intra-africaines. La Centrafrique a triomphé. Même si Bozizé prend la tête de cette coalition de groupes armés, le CPC va continuer d'attaquer les civils, pour que les ONG occidentales mettent maintenant les civils sur le dos des FACA. Et car, outre le gouvernement centrafricain, les FACA sont également dans le collimateur, car ils se développent beaucoup plus rapidement que ne le croyait l'Occident. La France et l'ONU tentent toujours de récupérer des points stratégiques dans le pays pour garder donc une certaine déstabilisation sécuritaire et donc des levées de pression et de soumission pour le gouvernement de Bangui. Mais l'Occident oublie que la population centrafricaine est unie à son gouvernement et que c'est cette union qui a gagné face aux tentatives de déstabilisation occidentale. Au Mali, un incendie s'est déclaré dans un magasin de munitions du camp de Gao, provoquant des crépitements de munitions. Des dispositions ont été urgemment prises et en cours pour circonscrire à l'incendie grâce à l'intervention des forces de défense et des sapeurs de la protection civile. Pour pouvoir intervenir sur ce feu, le directeur régional de la protection civile de Gao a effectué une mission de reconnaissance sur le site du sinistre à bord d'un blindé. Aucune intervention n'a été jusque-là possible. L'incendie continue. Ce lundi 22 mars vers 13h, un incendie non encore maîtrisé s'est propagé et fait souffler le magasin d'armement de la région militaire numéro 1, Gao, note un communiqué publié par le site de l'armée. L'on ne déplore aucune perte en vies humaines. Aussi, les pertes en matériel ont été limitées grâce à la rapidité des interventions et au courage des militaires, des forces armées et de sécurité. Et par ailleurs, l'aéroport de Gao restera fermé au trafic jusqu'à nouvel ordre. Les tentatives en vue d'affaiblir les femmes a continué et ça rime de la Guinée équatoriale qui attend le Mali. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le fait de détruire les munitions de l'armée nationale porterait un grand coup à la nation, mais créerait également une certaine dépendance vis-à-vis de Barkhane, en l'occurrence. Et de plus, la résistance malienne continue de pousser Barkhane hors du territoire malien et la population également. Les Maliens ont d'ailleurs planifié une série de manifestations contre la présence de Barkhane le 26 mars au boulevard de l'indépendance à Bamako. Le choix de la date n'est pas anodin, il s'agit bien de l'anniversaire de la révolution qui a vu la chute du général Moussa Traoré en 91. Le mouvement s'est fixé comme objectif le départ de l'armée française du Mali et le 20 janvier dernier, le gouverneur du district avait refusé la marche qui visait toujours le départ de Barkhane. Un membre du mouvement panafricain affirme que chacun doit jouer sa partition pour mener à bien cette lutte. Pour sa part, Hamidou Maurice Amakère a remercié la diaspora malienne en général et Sékou Tounkara en particulier parce que l'implication des Maliens de l'extérieur au sein du mouvement est non négligeable car ils contribuent aux différentes actions menées par les Maliens. Toujours selon lui, trop de gens sont morts, surtout les jeunes, depuis 2012 en dépit de la présence massive des troupes françaises sur le terrain. Vu la gravité de la situation sécuritaire, il juge utile et nécessaire de se lever pour mener cette grande mobilisation prévu le 26 mars pour déloger l'armée coloniale du Mali. Il a rappelé que l'ex-président Ibeka avait préconisé le dialogue avec les leaders des groupes armés terroristes, en l'occurrence Yad Ag Gali et Amadou Koufa, une décision qui était d'ailleurs appréciée par un grand nombre de Maliens, mais Ibeka s'était heurté à un refus catégorique d'Emmanuel Macron, chef de l'État français. La réaction de la France est insensée, il s'agit purement et simplement d'une ingérence qui ne dit pas son nom, lance-t-il. Par crainte de se voir perdre l'association entre Barkhane et les groupes terroristes au Mali, Paris refuse que Bamako entame un dialogue et pousse le gouvernement de transition à mettre le processus d'Alger en place afin d'arriver à démembrer le pays. Quant à l'honorable Sidiki Kouyaté, il a évoqué les rencontres précédentes organisées donc dans le but d'informer l'opinion sur cette guerre d'agression coloniale. Il trouve que le nombre de morts dans ce conflit ne fait que s'accroître et la souffrance est devenue monnaie courante au Mali. Selon lui, l'organisation sous-régionale qu'est la CDAO ne joue pas pleinement son rôle. D'après lui, les troupes de la CDAO doivent sans réserve combattre les agresseurs du Mali conformément au texte de l'organisation. Les militaires envoyés par la CDAO doivent en principe aider le Mali à combattre les terroristes, mais je suis déçu, affirme-t-il, de voir qu'ils se sont alliés à la France. Il s'indigne de la passivité de ceux-ci et il s'étonne qu'après l'attaque de Tessit qui a occasionné donc la mort de plusieurs soldats maliens, des forces de défense et de sécurité Barkhane, après ratissage de la zone en hélicoptère, avait comme par hasard affirmé qu'aucun terroriste n'était sur le terrain. Où sont-ils donc passés, s'interroge-t-il. Il affirme également qu'avant l'embuscade, les forces françaises avaient assuré aux militaires maliens la sécurité de l'itinéraire. À cela s'ajoute l'explosion d'un dépôt de munitions de l'armée à Gao, une situation confuse, ajoute-t-il. Ainsi, il lance un appel au peuple malien afin de se lever pour prendre en main leur destin. La France ne peut pas aider le Mali à faire face à tous ces problèmes. Lorsque nous nous sommes levés pour demander le départ de la France, cela a fait souffler un vent de panique et cet acte a attisé la colère de Macron et il a immédiatement convoqué nos présidents chez lui. Nous ne sommes pas loin de la victoire finale, déclare un membre du CNT. Ces panafricanistes veulent rappeler à l'opinion publique la bavure perpétrée par la MINUSMA en 2015 lorsque les snipers de cette force étrangère n'ont pas hésité une seule seconde à tirer sur les manifestants. Il trouve que la France mène un double jeu avec le Mali en entretenant les terroristes d'un côté et en essayant de les combattre aux yeux du monde. Et selon ses statistiques, pendant toute l'occupation terroriste au nord, on avait dénombré 3 morts. Et avec la libération de ces terroristes, les morts se comptent par centaines au niveau de la population malienne. Il juge cette situation inacceptable et les Maliens ne peuvent plus être dupés. Et le temps est compté pour la présence de Barkhane dans le pays. C'est pourquoi Paris met la pression pour des et le Mali, mais il ne cesse de se heurter à la résistance malienne. Au Niger, la Cour constitutionnelle a validé la victoire du candidat du PNDS. Mohamed Bazoum prendra ses nouvelles fonctions le 2 avril et les chantiers qui l'attendent sont immenses. En effet, suite à l'arrivée de Bazoum à la présidence, les problèmes sécuritaires ne se sont pas fait attendre. Le gouvernement nigérien a annoncé que 137 civils ont été tués et plusieurs autres blessés lors de l'attaque de dimanche 21 mars de plusieurs villages et campements du département de Tilia dans la région de Taoua, près de la frontière malienne. Selon certains médias, la région de Tilia, qui se trouve près de la frontière malienne, est une zone désertique très isolée et les réseaux de télécommunications y sont plus que parcellaires. Néanmoins, plusieurs sources auraient donc expliqué sur place que l'attaque avait eu lieu dans l'après-midi, que plusieurs dizaines d'hommes sont arrivés à moto et s'en sont pris à des campements nomades dans les localités d'Intazayen, Oursanat et de Bakora. Dans les deux premiers campements, ils ont ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient au niveau des forages et des points d'eau alors qu'ils abreuvaient leurs animaux. Une grande partie des victimes sont des déplacés internes. La région de Taoua connaît une insécurité grandissante. Le groupe terroriste de Daesh à la solde occidentale y a récemment étendu son emprise. Selon les infos des médias français, les militaires y étaient également présents et seulement, et selon la version de RFI, une patrouille de FDS. Des forces de défense et de sécurité auraient quitté Intikane pour se rendre en ce moment vers les localités attaquées. Quelques jours auparavant, déjà, une présence militaire se trouvait à proximité des villages et les assaillants auraient attendu leur départ avant de mettre leur plan à exécution. Ce n'est pas une militarisation, soit-elle à outrance, qui pourrait résoudre le problème du terrorisme dans cette région-là. Il y a un besoin de retourner aux consultations communautaires, affirme un analyste à RFI. Les faits sont assez troublants. De plus, la proposition donc de cet analyste trouvé par RFI qui annonce qu'il ne faut pas une militarisation, mais bien des consultations communautaires reflète d'autant plus ses intentions dans cette zone. Tout d'abord, il y a tout de même 137 morts, ce qui est assez énorme pour pouvoir réellement dire que cette attaque viendrait seulement d'une dizaine d'assaillants. Il semblerait que les choses aillent plus loin que cela. Ces terroristes devaient certainement être appuyés par des drones et en vue de l'article d'un média israélien de cette semaine, il ne serait pas impossible d'y voir une main américaine et précisément la CIA dans cette histoire. En effet, l'administration Biden tente d'étendre la base de la CIA à d'Irkout et s'il y a autant de morts, c'est parce que les assaillants bénéficiaient d'un appui de leur part. Que ce soit au Mali ou au Niger, les positions des soldats nationaux sont précisément connues des terroristes, mais personne ne connaît la position des terroristes eux-mêmes. Les assaillants attaquent toujours lorsque les militaires ne sont plus dans la zone ou lorsqu'il y a une relève, mais cela est beaucoup trop précis pour mettre donc cela sur le dos du hasard, comme le sous-entendent constamment les médias mainstream. Il faut également savoir que Tilia se trouve dans une zone à exploitation d'uranium, ce qui est également difficile à placer sous l'étiquette du hasard, à moins que les terroristes se lancent également dans l'exploitation d'uranium. De plus, au niveau de l'exploitation donc de cet uranium, voici les dernières nouvelles. La mine d'Akouta, exploitée par Orano, donc l'ex-Areva, a épuisé ses ressources en uranium et le site d'Imouraren prendra-t-il le relais? Premier producteur africain d'uranium, le Niger n'est pas prêt de céder sa place grâce aux divers projets qui émergent dans le pays. Celui de Dassa, piloté par le Canadien Global Atomic, enregistre depuis quelques mois des avancées qui laissent entrevoir une entrée en production imminente. Tous ces sites se trouvent dans les mêmes régions du nord, donc là où il y a les attaques. Le procédé ressemble trait pour trait, notamment à celui planifié dans le nord du Mozambique. Les terroristes attaquent pour provoquer un déplacement de masse ou tout simplement éradiquer les populations d'une région cible. Comme pour le nord du Mali, ces zones nigériennes sont interdites aux civils et à l'armée nationale. Dans les plans occidentaux, ces zones doivent être entièrement dégagées de tout civil ou militaire national, car ce sont les militaires d'occupation de Barkhane et les terroristes qui sont positionnés dans ces localités. Les tueries sont produites dans les mêmes zones. Tillabéri est régulièrement la cible d'attaques terroristes appuyées par l'Occident, car cette ville constitue une frontière pour la fameuse zone des trois frontières. L'insistance des pseudo-experts que les médias occidentaux interrogent de ne pas apporter une solution militaire, mais plutôt discuter entre les communautés, reste assez surprenante. surprenante. Même dans une attaque terroriste, les médias disent qu'il faut des discussions entre les communautés. Et comme si, dans le cas présent, le journal RFI connaissait l'identité des assaillants et qu'il compte mettre ces tueries sur le dos des Nigérians ou des Maliens. Alors que, comme au Burkina Faso, l'initiative de réconciliation des communautés ou encore au Mali, initiative qui se fait sans l'intermédiaire des Occidentaux dans le reste du pays, n'arrange plutôt pas et est systématiquement critiquée dans ces mêmes médias. Il y a pas mal d'hypocrisies qui sont reliées dans les médias mainstream et le silence et le manque de discours de la part des représentants du gouvernement français en l'occurrence, qui se disent amis du Niger et des pays du Sahel, reflètent parfaitement bien cette hypocrisie. En attendant, les Nigérians en ont marre de se retrouver donc dans des conflits d'intérêts occidentaux. Ils savent très bien que les tueries ne viennent pas de compatriotes nigérians, mais plutôt c'est le fruit de ces volontés de mettre les plans d'intérêt en place. Que Dieu préserve les âmes de ses victimes.